France Culture, il est midi, bonjour à tous. Et bonjour Antoine Mercier.
Bonjour Raphaël.
La grande table est de retour à Paris après la parenthèse cannoise. On retrouvera Caroline Brouet dès demain à ce micro. En attendant, on reprend le cours normal des émissions. Et d'abord, les titres du journal de 12h30.
La disparition d'un avion d'Égyptair qui reliait Paris au Caire avec 66 personnes à bord, 30 Égyptiens et 15 Français notamment. L'appareil qui s'est abîmé donc la nuit dernière en Méditerranée au large d'une île grecque. Officiellement, toutes les hypothèses restent ouvertes, mais celle d'un attentat serait la plus probable. Les opposants à la loi travail maintiennent la pression suite de la grève des routiers, aussi à la SNCF. Nouveau blocage, manifestation, contexte toujours aussi tendu. Le Premier ministre Manuel Valls appelait ce matin les syndicats à s'interroger sur la pertinence de certaines manifestations et s'est dit prêt à faire lever par la force, par les forces de l'ordre, les blocages des ports, des raffineries et des aéroports. Manuel Valls qui affirme par ailleurs qu'il convient maintenant de légiférer au sujet de la rémunération des grands patrons, car, dit-il, force est de constater que le patronat n'a pas respecté ses engagements. Mais à l'instant, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, estime lui que la loi n'est pas la bonne méthode. Le Premier ministre israélien en passe d'élargir son gouvernement. Un accord serait proche avec Avigdor Lieberman, le leader du parti d'extrême droite Israël Beiteinu, pour que celui-ci donc entre dans la coalition gouvernementale. Voilà pour l'essentiel des titres. C'est à vous, Raphaël. Bourgois, dans la dernière partie peut-être de la grande table.
Oui, dans la dernière partie, Antoine, vous resterez avec nous cette fois-ci, puisque notre invité sera le politologue Bruno Tertré, qui publie avec le journaliste Jean Guinel un essai, Le Président et la Bombe, c'est aux éditions Odile Jacob. Les auteurs y posent cette question: en quoi l'arme atomique a-t-elle façonné l'identité politique française? On en discute donc tout à l'heure, Antoine.
À tout à l'heure.
Mais avant cela, encore un petit morceau de Croisette rapporté dans nos valises pour terminer notre série d'émissions sur le 69e Festival de Cannes. On ne pouvait pas passer à côté de trois monstres sacrés du cinéma. D'abord, les doubles lauréats de la Palme d'Or avec Rosetta et L'Enfant, les frères Dardenne, qui présentaient hier La Fille Inconnue. Et ensuite, le réalisateur Bertrand Tavernier, qui offre aux spectateurs son voyage à travers le cinéma français dans la sélection Cannes Classique.
Allô, allô, ici Cannes.
Paris aujourd'hui est à Cannes.
J'attends d'une Palme d'Or qu'elle soit en même temps un accomplissement et en même temps qu'elle dessine un avenir pour le cinéma.
For me, it's a film that stays with you long after you've left the cinema.
C'est le film que vous emporte, c'est le saveur du film.
L'émotion la plus forte que je vais ressentir.
L'émotion qui me surprend.
The film has worked and that's what we're all looking for.
Pour moi, la forme est très très importante.
Moi, qu'est-ce que je cherche?
You know, everything comes together, the acting, the screenplay.
Le 21e film.
You know, shot and it's just, you know, whatever accomplishes the most, I guess.
C'est un film qui va changer ma vie.
Nous déclarons ouvert
le 69e.
Le 69e
Festival de Cannes.
Festival de Cannes.
On l'a dit et répété cette année, la compétition officielle du Festival de Cannes rassemble beaucoup d'habitués, mais ceux qui pensaient que Ken Loach ou Almodovar n'avaient plus rien à proposer en sont pour leurs frais. Ces grands réalisateurs venus sur la croisette à de nombreuses reprises ont su, sinon surprendre, au moins émouvoir les spectateurs et proposer leur meilleur cinéma. Il en est de même avec Jean-Pierre et Luc Dardenne, dont La Fille Inconnue creuse un nouveau sillon dans la veine du cinéma social qu'ils explorent depuis longtemps. C'est en effet un thriller que nous proposent les deux réalisateur belge, l'histoire d'un médecin généraliste, Jenny, interprété par Adèle Haenel, rongé par le remords après avoir refusé d'ouvrir la porte de son cabinet tard le soir à une jeune femme qui sera retrouvée morte le lendemain. Elle se lance alors dans une enquête qui vise non pas à retrouver le coupable du meurtre, mais à retrouver le nom de sa victime. On retrouve tout de même les lieux et les personnages des autres films des frères Dardenne, comme il le confirme à Antoine Guillot qui les a rencontrés.
C'est vrai qu'il y a un lieu où plusieurs de nos personnages vont habiter, une cité, un bâtiment HLM, un logement à bon marché, un building où ils ont presque tous habité. Donc c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que nos acteurs incarnent l'évolution de certains personnages que nous aurions. Ils seront différents. Jérémy est tout à fait différent, par exemple, dans chaque film, ou Fabrizio Ronjon. Mais c'est vrai qu'il y a... Je dirais, il y a un air de famille de toute façon entre eux, mais c'est vrai que parfois on se dit, tiens là, tel personnage a fait ça, tiens là... Alors que quand on commençait à tourner avec La Promesse, on se disait plutôt, tiens, nous on était là à ce moment-là, tu te souviens à l'école, tu te souviens... Ici, on se souvient des personnages du film précédent. Ouais.
À quelle heure?
20h05.
Je l'ai entendu.
Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'une heure après la dernière consultation.
Vous ne pouvez pas savoir. Ne pas ouvrir une heure après la fermeture, c'est normal. Vous avez vu son visage sur l'écran de votre parlophone?
Non. On était dans l'annexe du cabinet.
On voit sortir un garçon avec son vélo, c'est votre stagiaire?
Oui.
On va vous montrer les images. Si vous la connaissez, ça peut nous aider beaucoup parce qu'on n'a rien trouvé sur elle. Ni papier, ni GSM. Venez, on va voir les images sur l'ordinateur de mon collègue.
Vous savez de quoi elle est morte?
Une fracture ouverte au crâne. Mais on ne sait pas si elle est tombée sur le béton de la berge ou si on l'y a poussé.
Et des traces de coups?
L'autopsie externe n'a rien révélé.
Encore une fois, c'est la question de la distance qui se pose dans ce film. C'était déjà le cas, il me semble, dans Le Fils, par exemple, où il y avait cette question de la juste distance à laquelle filmaient vos personnages, la juste distance du géomètre aussi, quand il s'agit de mesurer. Et la question que se pose votre personnage de médecin dans le film, c'est aussi la juste distance à avoir avec ses patients.
Oui, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs à son stagiaire. Si tu veux pouvoir avoir un bon diagnostic, on peut dire si tu veux voir les choses, il faut pouvoir te méfier de tes propres sentiments. Donc il faut pouvoir pour estimer la distance. Il y a une distance à laquelle on ne voit plus ou on voit trop. Et il y a une distance où on peut penser qu'on voit les choses ou que les choses vous apparaissent. Et c'est un peu tout ce qu'elle va. Et je pense que c'est pour ça aussi que, à un moment donné, sans qu'elle le demande d'ailleurs, toujours, des gens viennent lui parler. C'est parce que c'est comme si la distance qu'elle gardait avec eux permettait à ces gens de trouver une place pour que leurs paroles puissent venir.
Elle écoute.
Et elle l'écoute. Et c'est la distance de l'écoute qu'elle a, notre amie Jenny. Et aussi une distance qui est un peu contrecarrée, cette distance contrecarrée, pour quand même une certaine proximité qu'elle doit avoir avec les corps, puisqu'elle les soigne, elle doit les réparer. Elle doit aussi réparer les corps. Donc là, il faut toucher.
Et oui, et c'est pour ça que le premier plan du film, c'est vraiment elle qui écoute la respiration du premier patient. C'est ça qu'on a voulu dire, c'est le silence et l'écoute. L'écoute dans le silence pour bien entendre ce que révèle la respiration, le souffle du patient. Avec le cinéma, on ne peut pas aller dans la tête. Il faut être... on est dehors, donc c'est en bougeant, en faisant certains gestes, et le regard qu'elle pose, l'attente qu'elle laisse pour que la parole puisse venir, le fait qu'elle tourne le dos aux personnages qui doivent parler. Il y a, bon, c'est beaucoup d'attitudes du corps qui font que la parole peut venir, et son regard aussi.
Il y a chez vous, dans votre filmographie récente, on sent que vous avez un plaisir aussi à filmer des actrices qui ont déjà été filmées. Vous avez inventé beaucoup d'acteurs, mais là, depuis trois films, après Cécile de France, après Marion Cotillard, vous faites aussi un portrait d'Adèle Haenel. Comment vous l'avez envisagée, elle, comme visage d'actrice?
Nous, c'est la présence du génie, la présence de ce médecin qui ne doit pas être dans la violence qui l'environne, qui doit être différente de cette violence. Donc, c'était une présence avec Adèle qu'on a travaillé dans ce sens-là. Et ça se traduit évidemment par la manière dont on filme le visage, mais aussi la manière dont on filme des réactions de son corps, la manière dont elle marche, la manière dont elle s'adresse aux autres, les mains, comment elle touche les autres, comment elle peut les réconforter ou pas. C'est à tout ça qu'on est attentif, que ce ne soit pas quelqu'un qui soit dans la puissance, vous voyez ? Dans la puissance et dans l'affirmation.
C'est d'ailleurs un peu une cousine du personnage que jouait Cécile de France dans Le gamin au vélo. La question que vous posez, après avoir beaucoup interrogé la question du mal, il me semble, dans vos films, dans la première partie de votre filmographie, c'est la question de la possibilité du bien. Ouais. Comment faire le bien? Comment filmer le bien aussi? Ce qui est souvent difficile au cinéma, parce qu'on risque toujours de tomber dans le naïf, les bons sentiments. Et là, ce personnage y échappe, justement, à cause, sans doute, de son opacité.
Je vous remercie de dire ça, que le personnage échappe aux bons sentiments et à la facilité, finalement, de l'identification qu'on peut avoir avec ce genre de personnage qui vous conforte, finalement, dans votre confort, dans votre stabilité, et qui vous empêche de bouger en tant que spectateur. Non, je crois, c'était ça. Si vous voulez, c'est pour ça qu'elle ne vient jamais juger les gens, Jenny. Elle ne vient pas dire je sais et vous pas. Dites la vérité, jamais. Et quand un personnage le croit, Elle lui dit, non, moi je suis autant coupable que vous. Non, le problème, il n'est pas là. C'est moi, j'ai pas ouvert la porte. Donc, c'est pas pour ça que je viens. Mais elle veut que les personnages comprennent l'importance que c'est de retrouver le nom, l'importance qu'est retrouver le nom de cette jeune fille. Et bon, voilà, nous, on a essayé que chaque personnage qu'elle rencontre arrive à parler et à dire, donc, et en même temps à se dénoncer comme étant impliqué dans cette histoire. Et donc, c'est-à-dire à devenir, si on caricature un peu, à devenir des gens bien, des gens de bien, des gens, effectivement, qui sont capables de dire la vérité, de rendre la justice, et de ne pas cacher la vérité, et de ne pas être injuste, en laissant accuser un autre, ou en ne permettant pas à cette jeune fille d'avoir un nom. C'est pas facile pour elle, sans doute, de faire ce qu'elle fait, de dire « je renonce à une carrière, je reste là-bas », c'est comme ça que la vérité viendra, sinon elle ne viendra pas. Hein, puisqu'elle a dit au petit garçon avant, tu peux venir me voir quand tu veux au cabinet. Donc jour et nuit, pas seulement dans les heures d'ouverture, évidemment. Et voilà, elle est là, elle est disponible, c'est une oreille. Je pense que c'est bien que le spectateur, il dise, mais finalement, oui, elle fait ce qu'elle fait là, mais peut-être elle aurait pu ne pas le faire, parce que c'est si grave d'avoir, de ne pas avoir. Et oui, pour elle, oui. Et bien pourquoi? Ben voilà, c'est la question, mais j'espère que ça reste une question dont on peut débattre après le film.
Et des débats, il y en aura sûrement parmi les membres du jury pour savoir si la fille inconnue des frères Dardenne doit obtenir une troisième palme d'or. Réponse dimanche.
France Culture, la grande table.
La troisième palme d'or, c'est évidemment pour les frères Dardenne et non pas pour la fille inconnue. On enchaîne donc dans une toute autre veine, quoique sur le documentaire de Bertrand Tavernier qui était projeté lundi dans la sélection Cannes Classique. Voyage à travers le cinéma français propose sur 3 heures le regard intime mais toujours très analytique d'un réalisateur qui a fait tous les métiers du cinéma. On a rencontré Bertrand Tavernier, on lui a d'abord demandé, lui, qui revient sur son éveil à la cinéphilie, ce que voulait dire le terme de cinéphile pour lui aujourd'hui, réponse de Bertrand Tavernier.
C'est un terme qui a pris un sens différent, qui a bougé, mais qui existe toujours. J'en ai des preuves tous les jours. Moi, je fais un blog sur le site de la SACD et je reçois des contributions souvent passionnées, passionnantes, de gens qui écrivent extrêmement bien. Si je voulais être moqueur, je dirais presque mieux que certains critiques institutionnels, c'est vrai, de gens qui analysent des films, alors des films qui viennent de sortir, mais des films anciens, mais je trouve que là, on voit, on assiste à des réactions qui sont des réactions de gens très très forts, sur la musique, sur la photo, sur les formats des films, qui critiquent, qui trouvent que le DVD de La Soif du Mal ne respecte pas le bon format et les principes de mise en scène que veut Wells, ou des gens qui vont m'expliquer. Moi, j'ai appris beaucoup de choses par des grands débuteurs, donc je me dis, voilà, la cinéphilie, elle n'est pas morte. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait m'expliquer que la musique de Fort Bravo de John Sturges, que j'entends, que moi je trouvais banal et conventionnel, n'était pas la vraie musique du film. Que la vraie musique qu'il avait composée, le premier score qu'il avait composé, avait été jugé trop noir, trop dur par la MGM, et que ça contrariait l'aspect commercial du film, et qu'il lui avait fait refaire une musique plus, plus vaillante, plus optimiste. Et il me met en ligne, en pièce jointe, les deux scores du film. Écoutez, je suis dit, mais en 1960, j'avais pas ça. Je n'avais pas ça. Donc oui, la cinéphilie, elle a pris un sens différent, un regard différent, mais elle existe. Et c'est souvent les décideurs qui pensent qu'elle n'existe pas.
Alors là, dans Voyage à travers le cinéma français, c'est vraiment votre vision. Il y a un côté performance dans ce documentaire. Alors je reprends les chiffres qui ont été cités déjà, mais 6 ans de travail, 582 extraits, 94 films. Est-ce que quand vous avez commencé ce projet, vous aviez une direction ou est-ce que le film s'est fait un peu de lui-même? Comment est-ce qu'on choisit? Comment est-ce qu'on écarte?
Je savais en faisant le film que je commençais par l'enfance. C'était le point de départ et que je voulais commencer par le premier film qui m'avait marqué. Ce qui m'amenait naturellement à Jacques Becker. Ça, j'ai toujours su. Et que j'avais le départ. J'avais le départ, je m'étais dit, le départ, Jacques Becker, et puis après, Jean Renoir, qui a été un choc quand j'avais 14-15 ans, La Grande Illusion. Alors, après, les choses sont venues d'elles-mêmes, et un petit peu, elles se sont imposées. j'avais de certaines règles. Je me dis, si j'ai Jacques Becker, il faut qu'après, on passe sur un sujet différent, plus bon, différent, pas, qui ne soit pas, qui ne rentre pas en compétition avec une sorte d'étude d'un metteur en scène. Donc peut-être on va parler d'un seul film ou des salles de quartier ou des trucs comme ça. Voilà, d'essayer d'alterner. Un moment où je vais essayer de dire ce que je pense en tant que cinéaste. Pas, je ne suis pas critique de cinéma. Je ne suis pas historien de cinéma. Je ne suis pas universitaire. Il y a certains éléments que j'ai dû, pour le vérifier dans des bouquins, je ne les connaissais pas. Mais je sais que je peux parler à la première personne de ce que j'ai ressenti. Je sais ce que je peux parler à la première personne de ce que certaines personnes m'ont dit. Oui, j'ai eu Prévert devant moi me disant sa détestation de Marlène Dietrich et de ce qu'elle disait sur le scénario des Portes de la Nuit, que Prévert trouvait complètement idiot et qu'il était enragé contre ça. J'ai cité la phrase exacte qu'il avait dit, c'est-à-dire cette conne qui a passé toute la guerre à Beverly Hills, qui venait nous donner des leçons de civisme français. À moi, qui venait me donner sur l'occupation. Voilà. Donc je peux témoigner, parce que j'ai des témoignages de première main. J'ai travaillé avec Melville, j'ai travaillé avec Sautet, j'ai très bien connu Edmond Tégréville, j'ai connu Jean Chacha, qui a fait un des meilleurs films d'Eddie Constantine avec Cet homme est dangereux, et qui était un cinéphile passionné, bien avant que les cinéastes de la Nouvelle Vague, dont on disait, c'est les premiers qui ont été des cinéphiles passés à la mise en scène. Non, Jean Chacha, en 1932, publiait une revue de cinéma où il interviewait Rouben Mamoulian. Voilà, donc, voilà, j'ai des gens... c'est ça que j'ai envie dont j'ai envie de parler.
Si on passait par le raccourci, on pourrait les coincer.
Oui, prenons le raccourci.
Cette poursuite, j'en ai gardé des images vraiment très précise pendant des dizaines d'années. Et c'est après, je sais pas, 25 ans, que j'ai pu identifier le film. La première œuvre cinématographique qui m'avait marqué était dirigée par Jacques Becker. Il s'agissait de Dernier atout. Le film qui m'avait impressionné était dû à un des plus grands cinéastes français, quelqu'un que j'allais adorer. À 6 ans, j'aurais pu tomber plus mal.
Alors vous l'avez dit, Bertrand Tavernier, ce film, ce documentaire n'est pas un documentaire d'historien, n'est pas un documentaire de critique, c'est le documentaire d'un cinéaste, une vision subjective, et ça en fait presque un film au carré, un film sur le cinéma, un film de film.
Oui, parce qu'en tant que cinéaste, tout d'un coup, moi, il y a des choses qui vont m'intéresser énormément. Par exemple, l'utilisation de la musique dans certains films. C'est une chose dont on parle jamais. On parle très très peu de la musique. Qui a écrit un texte sur ce qu'a amené Jacques Ibert, compositeur immense dans le cinéma français, et qui a fait que, il y a une raison, Orson Welles le prend pour faire la musique de Macbeth. Est-ce que vous trouvez dans une revue de cinéma un texte sur l'apport de Jacques Ibert ou de Georges Vamparis, quand il travaille avec dans tellement de films et qu'il écrit tellement de mélodies sublimes? Bon. Aussi, ça m'intéresse de savoir, de sentir que Marcel Carné tournait pratiquement toujours avec la même focale, le 32, et de montrer, ça lui permettait d'utiliser des décors qui sont normalement impossibles à filmer. Donc ça, moi, c'est le cinéaste qui parle, ou la profondeur de champ chez Renoir. Et je me dis brusquement, mais la profondeur de champ, c'est le contraire de la peinture de son père. C'est le contraire. Et en même temps, je réagis en cinéaste dans des gens qui disent « Renoir, il improvisait sur le plateau des plans et des trucs. » Et puis je montre un plan, je dis « Mais on ne peut pas improviser un plan comme ça. » Vous avez vu la sensibilité de la pellicule à l'époque, le fait que la caméra qui monte, qui va au premier étage, qui passe à travers des pièces, qui redescend, qui va recadrer quelqu'un, qui va... moi je dis il y a au moins 2 jours de répétition pour ce plan. Et comme par hasard, Pascal Mérigeot, dans sa biographie, découvre que le plan est minutieusement décrit dans la première version du scénario. Donc quand les gens disaient c'est un plan qui est trouvé, Renoir savait improviser et trouver ça sur... Là, du coup, ça me rend encore plus admiratif de Renoir. Parce que je me dis, il avait le génie de faire croire que c'était improvisé, alors qu'il l'avait obtenu par un travail énorme. de préparation et de réflexion technique.
Alors, le plan dont vous venez de nous parler, Bertrand Tavernier, c'est le plan dans Le Crime de Monsieur Lange, évidemment, de Renoir, pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas reconnu juste à la description, évidemment. Et vous avez parlé de musique, alors parlons-en tout de suite, Bertrand Tavernier. Vous plaignez dans ce film que, en effet, les musiciens, les compositeurs soient les personnes les plus méconnues du cinéma. Vous avez cité Von Paris, il y a évidemment Cosma, Georges Delerue, que vous citez également, et Maurice Jobert, la musique de l'Atalante, c'est quelque chose qui a été important pour vous et sur lequel vous insistez dans ce film.
Ça a été pour moi le plus grand choc que j'ai eu ce film. Et j'ai très longtemps cherché la musique et j'ai mis très longtemps à la trouver. Il a fallu attendre que Truffaut édite un disque d'hommage à Maurice Jobert. Alors oui, maintenant la musique de film, on rend hommage à des gens vivants. On invite, ce qui est très bien, Michel Legrand, Ennio Morricone, John Williams. Mais est-ce qu'il y a eu, pour simplement une question, une cinémathèque, un festival qui rend hommage à Georges Van Paris, qui rend hommage à Maurice Jobert, qui rend hommage à Joseph Cosma? Est-ce qu'il y a eu une fois un hommage fait à l'apport d'Henri Dutilleux à la musique de film, puisqu'il a écrit plusieurs films? Darius Milhaud. Est-ce que vous êtes capable de trouver un disque là où on retrouve ce que Darius Milhaud a écrit pour le cinéma, ou Arthur Honegger, ou des gens quand même qui sont des musiciens considérables, ou Jean-Jacques Grunewald, qui était le plus grand spécialiste de Bach à l'orgue, qui a écrit les deux premiers films de Robert Bresson et la plupart des films de Jacques Becker. Vous n'avez pas un disque de ces gens-là. Il n'y a jamais eu un hommage. Vous avez des hommages à des metteurs en scène de série B, Z, de tous les pays, mais vous n'avez jamais d'hommage à des compositeurs sublime.
Mais alors Bertrand Tavernier, est-ce qu'il existe une façon proprement française d'utiliser la musique, de jouer sur les images à travers la musique, puisque c'est un voyage en cinéma, à travers le cinéma français, ce film.
Il y avait un rapport unique entre les musiciens français et les réalisateurs de films. Parce que contrairement aux Américains, les grands metteurs en scène français choisissaient leurs compositeurs, travaillaient dès le début. Georges Van Paris a expliqué qu'il a travaillé sur des masses de films avec René Clair, et René Clair lui donnait un défi dans Les Belles de Nuit, faire un thème musical qui ne soit uniquement à partir d'une gamme descendante.
Bertrand Tavernier, on a évoqué donc des compositeurs, on a évoqué des réalisateurs, il y a aussi des acteurs dans ce voyage à travers le cinéma français, et un acteur, l'acteur majeur, qui est Jean Gabin. Dans ce film, vous aimez raconter des anecdotes, mais qui n'ont rien d'anecdotique, c'est-à-dire que ce sont toujours des histoires qui permettent de comprendre comment même le jeu de Gabin a pu évoluer, comment on dirige un acteur comme Gabin. C'est vraiment ça qui est au cœur de votre réflexion.
Oui, d'abord, Gabin était quelqu'un d'extraordinairement intelligent. C'est quelqu'un qui avait une langue sublime. Enfin, la manière dont il parle de Gaulle est absolument formidable. C'est un homme qui avait un sens de la formule. Le drapeau noir flotte sur la main mise, qu'il dit a été utilisé par Audiard. Et Audiard s'est beaucoup nourri du parler de Gabin. Il le reconnaissait toujours. Gabin, c'est quelqu'un qui s'investissait dans les films, qui savait en parler de manière formidable, qui avait une reconnaissance envers Renoir et Duvivier qui était immense, et la manière dont il parlait de l'attitude de Renoir vis-à-vis d'un chef opérateur extraordinaire qui est Kurt Courant. Mais à un moment, il ne voulait pas que ce chef opérateur dicte quelque chose à un acteur. Et Gabin, il me disait, mais vous savez, à cette époque, la tyrannie des chefs opérateurs était extrêmement puissante, et quelqu'un qui envoyait bouler un chef opérateur en disant simplement c'est à lui de s'adapter aux acteurs et c'est pas aux acteurs de s'adapter à ses désirs. Ça nous donnait une liberté sur le plateau. Il savait créer un espace confortable pour que les acteurs puissent bouger. Voilà, ça c'était très 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 important.
Et alors cette importance des chefs opérateurs, elle tient à quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié, c'est la lourdeur technique de ce cinéma, du cinéma de ces années-là. Vous avez dans votre film Voyage à travers le cinéma français, Bertrand Tavernier, vous analysez notamment cette scène du jour se lève, le jour se lève. Vous dites, voilà, il y a un choix qui est fait de mettre Gabin au dernier étage. De l'immeuble dans lequel son personnage est retranché. Et puis voilà, le jour se lève, c'est un long flashback, enfin c'est un flashback bien avant Citizen Kane d'ailleurs. Vous dites, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que filmer au dernier étage, c'est un cauchemar pour la production, c'est un cauchemar financier.
C'est un cauchemar financier. D'abord, c'est une idée qui vient du décorateur, et c'est là où on voit qu'un décorateur de génie, comme Alexandre Trauner, peut amener un choix qui relève de la dramaturgie, qui change le scénario. Si Gabin vit au premier étage, il n'y a plus rien dans les rapports. Les rapports sont plus les mêmes que quand il vit au dernier étage. Et ça, tout d'un coup, ça excite le metteur en scène, puisque au dernier étage, il va pouvoir filmer de très loin. Il va pouvoir voir Gabin dominer la foule, ne pas entendre ce que les gens disent. Même quand les gens veulent l'aider, il ne l'entend pas. Ça l'isole. Ça ajoute à la dramaturgie. Et évidemment, c'est plus cher, puisque si vous construisez 5 étages, pour le filmer à hauteur, vous devez utiliser une grue, vous devez amener un appareil technique, vous devez éclairer en hauteur, vous devez... Tout devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué, et beaucoup plus cher. Et le génie de Carnet, c'est de ne pas céder au producteur qui lui demande de couper tous les jours un étage. Hein, et donc, il tient... Un autre producteur qui disait « Il ne faut pas de brume dans le Quai des Brumes parce que j'ai dépensé tellement d'argent pour le décor, avec les brumes, on ne voit pas le décor que j'ai construit. Hein » Moi, j'adore cette anecdote. Et je vous dis qu'un metteur en scène devient formidable quand il résiste à ça.
Et d'ailleurs, vous dites, Bertrand Tavernier, un réalisateur doit expérimenter, mais aussi respecter le public. Ce sont un peu, finalement, les deux axes que vous retenez de ce voyage à travers le cinéma français.
Mais, Becker avait été notamment quelqu'un qui voulait beaucoup, beaucoup expérimenter, qui voulait casser la dictature de l'intrigue, mais qui voulait que, dans un film, il n'y ait rien qui soit incompréhensible pour le public. Et José Giovanni m'avait raconté que, il travaillait des heures dans le trou pour que un détail sur un gardien de prison soit compréhensible, pas seulement pour les gardiens de prison, mais pour des gens qui ne connaissent pas l'univers pénitentiaire, que tout d'un coup, ils arrivent à comprendre le poids de tel geste, l'importance que ça avait. Et ça représente un vrai travail. C'est ne pas se mettre à la portée du public, ça ne veut pas dire s'abaisser, ça veut dire le respecter et faire en sorte qu'il n'ait pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre ce qui va lier ou ne pas lier des personnages.
Une toute dernière question, Bertrand Tavernier. Est-ce que ce film est une sorte de chaînon manquant entre cette période de votre éveil à la cinéphilie, de ces grands réalisateurs dont vous nous avez parlé, et la Nouvelle Vague ? On a souvent dit que la Nouvelle Vague s'opposait finalement, et on se rend compte à voir votre film que, en fait, une opposition toute factice et que le lien est réel.
Ben oui, l'opposition est factice. Je montre, j'ai travaillé pour tous les gens de la Nouvelle Vague. Moi, j'ai une admiration. Et on voit, je travaillais avec Godard sur Pierrot le Fou, sur Le Mépris. Et on voit que oui, ces films sont novateurs par rapport à certains films. Mais les films de Carnet étaient novateurs par rapport à leur époque. Les films de Becker restent novateurs là. Ils le sont de manière différente, les films de Godard. Mais c'est le prolongement normal de l'évolution d'un art. Et j'essaye de montrer ce qu'apportent des films de Rosier dans la liberté de la technique de façon de filmer deux filles dans la rue, ce qu'apporte beaucoup Godard dans l'utilisation de la musique et de la couleur. La façon dont la musique d'Antoine Duhamel est mise en valeur dans Pierrot le Fou, c'est quand même c'est une leçon pour moi.
Mon Jules, c'est Mac, mon Mac, c'est Mick.
C'est Mac, mon Mac, c'est Mick.
Oh, quel Mick, Mac.
Oh, quel Mick.
C'est Mick à la Mac, le
Mick à la Mac, le
C'est fantastique.
C'est fantastique.
Le très beau voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier sortira sur tous vos écrans le 12 octobre. Le 12 octobre, c'est aussi la date de sortie de La fille inconnue de Jean-Luc et Pierre Dardenne pour le palmarès du Festival de Cannes. Il faudra attendre dimanche et pour patienter, pour écouter Projection privée de Michel Simon, samedi 21 mai, il recevra Bruno Dumont pour son Malout présenté au début de festival. Et bien sûr, retrouvez Antoine Guillot pour son Portrait du jour chaque matin à 7h13 dans les matins de France Culture.